C'est d'autant plus injuste que nous sommes deux, mais bon. Voilà, donc comme le précisait Thierry, nous allons rendre compte avec Sina d'une recherche en cours qui porte sur une comparaison franco-argentine, recherche collective. Je vais en dire quelques mots pour présenter le contexte, hein, ce qui suppose que je commence, moi, par un certain nombre de généralités à la fois sur l'Argentine et sur les bibliothèques populaires en Argentine, avant que Sina prenne la suite pour ensuite approfondir un certain nombre de données sur une bibliothèque en particulier. Je rappelle donc le contexte scientifique dans lequel cette recherche a été amorcée. Donc, elle est réalisée dans le cadre d'un programme ECOS Sud. Ce sont des programmes d'échange qui ont été mis en place au début des années 90 par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui permettent justement des échanges de chercheurs d'un continent vers l'autre. Là, en l'occurrence, l'Amérique latine, l'Argentine en particulier, ce qui suppose que tous les ans, un certain nombre de chercheurs français se rendent en Argentine, alors que des chercheurs argentins, voire des professionnels dans certains cas, viennent en France. Les programmes ECOS ne visent qu'à cette mobilité humaine, hein, et scientifique, c'est-à-dire qu'il n'y a a priori pas de rendus qui sont attendus et expertisés. Cela dit, nous sommes engagés dans un travail d'approfondissement des matériaux recueillis et par la suite un travail d'écriture. Alors, comme vous le voyez, donc le programme est intitulé, et c'est ce qui explique le fait que notre recherche ne soit qu'une partie de ce programme, « Lire et écrire dans les périphéries urbaines, Buenos Aires et Paris, bibliothèque, livres, chansons, écrits numériques ». La bibliothèque n'est qu'un objet, qu'une interface, un point de rencontre entre les milieux populaires et les bibliothèques. Le programme est dirigé par Denis Merclin, dont on a déjà parlé au cours de la matinée, et que vous connaissez peut-être, hein, qui a rédigé un ouvrage publié aux presses de l'ENSIB intitulé « Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ?» Et son alter ego homologue argentin, Pablo Seman, qui lui est sociologue à la CONICET, qui est l'équivalent du CNRS argentin. Très vite, la mission a été, en ce qui nous concerne, réalisée très récemment, en octobre-novembre 2014, à Buenos Aires. Nous avons visité, d'une manière plus spécifique, 5 bibliothèques populaires dans la grande banlieue de Buenos Aires. Sina présentera un peu cet aspect, ce type de localisation. Ce qui supposait donc un travail d'observation relativement fin, mais en même temps parfois un peu survolé, dans des bibliothèques populaires, des rencontres avec des personnes impliquées dans la création et l'animation des bibliothèques populaires, et des rencontres également avec des professionnels de la lecture publique argentine, responsables d'une école de formation de bibliothécaires, directeurs de la Bibliothèque nationale argentine, et d'autres professionnels encore. Voilà, une mission de 15 jours en ce qui me concernait, et une mission en immersion un peu plus longue de Sina, dont il parlera, sachant que son travail, et c'est l'objet aussi de notre présentation aujourd'hui, est articulé avec son propre travail de thèse à Orléans, dont on vient de parler, hein, et qui porte sur une médiathèque de quartier, donc ce qui nous permet de comparer cette offre de lecture publique en direction des milieux populaires dans les deux pays. Toujours aussi rapidement, je vais peut-être ralentir un peu le flux quand je viendrai au cœur du sujet. Quand même, quelques rappels en ce qui concerne le contexte argentin. Alors, vous avez peut-être en tête un certain nombre d'images, ce qui était mon cas d'ailleurs, hein, avant d'aller en Argentine. Voilà, Mafalda, Maradona, Messi, les Asados, les Gauchos, le Tango, Gardel. Voilà, l'Argentine contemporaine, c'est ça, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. C'est un pays qui est près de 5 fois plus grand que la France, qui compte 43 millions d'habitants, donc beaucoup moins que la France, sachant que le tiers de la population, et Sina en reparlera, réside dans la capitale et dans la grande agglomération de Buenos Aires. Donc il y a une forte densité démographique dans cette région. C'est un État jeune, particulièrement jeune, hein, donc qui commence à proclamer son indépendance en 1810. C'est une république fédérale, sachant que ses caractéristiques ont des conséquences très fortes sur les institutions argentine et sur l'organisation du pays et en particulier sur les politiques de lecture publique. J'y reviendrai. On verra que ce sont plutôt d'ailleurs des formes de politique publique montante plutôt que des formes de politique publique descendante par certains côtés. C'est la troisième puissance économique du continent, mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Il faut évidemment parler des crises économiques graves, voire très graves, successives, hein, qui jalonnent l'histoire récente du pays, notamment la crise de 2001, hein, qui débouchait sur ces émeutes urbaines particulièrement graves, longues et difficiles, et la crise à nouveau dans laquelle l'Argentine, alors qu'on avait commencé à parler d'un miracle argentin, alors que la société argentine est touchée de plein fouet, avec notamment les effets de la crise post-2008, voilà, les emprunts vautours, hein, tout ce dont on nous parle beaucoup quand on parle de l'Amérique latine, ce qui n'est quand même pas toujours le cas dans les médias. Voilà, donc on a aussi ce contexte institutionnel particulier, hein, avec une population qui est gravement impactée, classe populaire, classe moyenne, voire une partie des élites également. Et très vite aussi, quand même, un certain nombre de rappels pour situer le contexte. L'Argentine passe plutôt dans le continent sud-américain pour être, on pourrait peut-être en reparler avec Michel Petit qui est présente, pour être une nation plutôt lectrice. Avec le Mexique, par exemple, hein, 56% de lecteurs de livres chez les 12 ans et plus au cours des 12 derniers mois, d'après une enquête très récente qui date de 2013. Les ouvrages les plus lus, alors c'est amusant, ce sont des choses qu'on a retrouvées dans les collections des bibliothèques populaires, étant les contes, les livres d'histoire, voire d'histoire politique, et les romans en troisième position. Une autre enquête datant cette fois-ci de 2011 qui porte sur les habitudes de lecture en Argentine montrait que près d'une personne sur deux âgée de 18 ans et plus déclare connaître les bibliothèques populaires, un tiers d'entre elles environ, un peu moins, s'y étant déjà rendue. Donc la bibliothèque populaire, d'un point de vue statistique, est plutôt présente. Alors, je vais essayer de définir l'objet bibliothèque populaire. Et je fais tout de suite un petit aparté qui est prévu dans mon avant-dernier point, mais qui me semble important, pour rappeler que les bibliothèques populaires ont existé en France, qu'elles existent encore. Dans l'agglomération parisienne, il y a encore des bibliothèques populaires actives, hein, notamment les bibliothèques qui dépendent des associations autour de la défense et de la diffusion de l'instruction publique. En France, elles étaient assez nombreuses et très actives dans la deuxième moitié du 19e siècle. Je vous renvoie à un ouvrage qui est paru aux presses de l'ENSIB sur cette question et qui fait le tour de la question de façon assez complète. Petit à petit, elles ont été supplantées volontairement, politiquement même, parfois on peut dire, par les bibliothèques municipales qui se sont développées et qui se sont professionnalisées en ce qui concerne les bibliothécaires, sachant que le modèle de bibliothèque municipale, par certains côtés, je ne suis pas historien, donc je m'avance sur un territoire qui n'est pas tout à fait le mien, on peut dire que la lecture publique française s'est presque construite contre les bibliothèques populaire, en essayant d'affirmer des idéaux de neutralité, de professionnalisation et d'organisation tout à fait spécifiques. Voilà. Par certains côtés, hein, je schématise un petit peu. Qu'est-ce qu'une bibliothèque populaire argentine ? C'est une association civile autonome, donc privée. Elle émane d'une initiative privée, créée par la vocation solidaire d'un groupe d'habitants, qu'on appelle des vecinos. Alors, vecinos, c'est le voisin, hein, au sens littéral du terme. C'est en fait une notion qui a une dimension politique assez forte. Le vecino, c'est en fait un acteur social engagé dans son territoire et dans la défense de son quartier, de son environnement proche. Donc, c'est par certains côtés un militant, le vecino, d'une localité ou d'un quartier. La création d'une bibliothèque populaire répond aux besoins d'accès à l'information, à l'éducation, aux loisirs et à l'animation culturelle, toutes choses qui résonnent avec ce que sont nos bibliothèques ici en France. Elle est dirigée et soutenue et gérée principalement par ses membres associés et ouverte à tous les publics. Voilà, c'est la définition donc qu'en donne Maria del Carmen Bianchi, qui est la présidente actuelle de la CONABIP, dont je vais vous parler. La toute première Bibliothèque populaire est créée en 1866 à San Juan, et c'est le président Sarmiento, Domingo Sarmiento, qui passe pour être le Jules Ferry argentin, on dit qu'il est le maître d'école de l'Amérique latine, et qui va impulser ce système de bibliothèque populaire en promulguant une loi. Donc les Argentins n'ont pas de bibliothèque municipale à proprement parler, mais ils ont une loi qui a été donc votée le 23 septembre 1870 hein, pour mettre en place une commission protectrice qui allait faciliter le développement des bibliothèques populaires. Voilà, pour la petite histoire, le 23 septembre 1870 est devenu le jour des bibliothécaires, donc il est célébré régulièrement en Argentine. Ils ont une loi et ils ont une fête nationale. La commission protectrice s'est transformée en CONABIP, la Commission nationale des bibliothèques populaires, qui est une commission, qui est une interface en fait entre les bibliothèques populaires d'initiative privée et le gouvernement argentin, là en l'occurrence le ministère de la culture. Et donc la CONABIP a pour mission de faciliter leur développement, leur apporter des fonds, hein, notamment via 5% qui sont prélevés sur des gains à la loterie. Donc, vous voyez, ça peut peut-être nous donner des idées en période de disette. Elle les aide également en termes de formation des personnels, hein, professionnalisation des bibliothécaires. Elle les aide à acquérir des ouvrages, des fonds d'ouvrages pour constituer même des fonds d'usuel, voire des fonds d'ouvrages de référence, notamment sur l'Amérique latine et sur la littérature latino-américaine. Hein, la CONABIP leur donne des chèques, par exemple, pour acheter des livres à la Foire du Livre de Buenos Aires, qui est le salon du livre, en gros, de l'Argentine. Et il y a une journée qui est réservée aux bibliothécaires qui viennent avec leurs petits chariots, leurs roulottes, et qui repartent. Vous imaginez au salon du livre ce genre de choses, avec des chèques du ministère. Voilà. Je reviendrai sur cette question. Et la CONABIP a fait en sorte aussi que les bibliothèques populaires puissent se fédérer en réseau. Donc la CONABIP les a aidés à informatiser non pas leur catalogue à proprement parler, mais à constituer un catalogue collectif commun qui n'est pas forcément utilisé sur place localement dans les bibliothèques populaires, mais qui permet quand même à la CONABIP d'aider un peu mieux ce réseau. Toujours aussi vite, on comptait 200 bibliothèques populaires en 1876, près de 1000 en 1990, aujourd'hui plus de 2000. C'est-à-dire qu'à mesure que l'Argentine, parfois, a été impactée par des difficultés liées à la crise économique, les bibliothèques populaires se sont développées pour aider, soutenir les populations, notamment les aider à mieux se former et se défendre parfois. On compte 500 bibliothèques populaires seulement pour la seule province de Buenos Aires. Voilà, je passe peut-être sur un certain nombre de caractéristiques. Il faut savoir qu'on compte environ 15 millions d'usagers dans ces bibliothèques populaires, 30% de femmes, 12% d'hommes, 58% d'enfants et adolescents. C'est un tropisme fort des bibliothèques populaires, c'est-à-dire que leur public principal, c'est d'abord et avant tout les enfants et les adolescents. Et elles ont souvent d'ailleurs un rôle éducatif assez fort. Elles sont plus ou moins informatisées et certaines d'entre elles proposent des accès à Internet. Avant de vous montrer des images et de laisser la parole à Sina qui va prendre un peu plus de temps pour approfondir un certain nombre de choses, hein, que ce soit d'ailleurs à Orléans ou à Buenos Aires, je voudrais rappeler quelques caractéristiques qui nous ont semblé importantes à Sina et à moi, donc pour présenter ces bibliothèques populaires, sachant qu'on a quand même, sur les 2000 bibliothèques populaires, une diversité extrêmement importantes en fonction de leur origine, de leur âge, de la façon dont les collections se sont constituées, selon les membres des commissions, la particularité des profils des membres des commissions qui ont créé les bibliothèques populaires. On a affaire à des établissements qui sont très différents les uns des autres. Malgré tout, on peut rappeler ces grands principes, hein, donc des locaux loués, prêtés parfois, achetés même, construits, je vais donner un exemple, par des personnes en charge des bibliothèques populaires. Donc on relève ses manches et parfois on doit même puiser dans ses propres deniers pour payer la location de la bibliothèque populaire. Elles sont payantes, toutes, là, pour le coup. C'est modique, mais toutes payantes. Et on va voir que ça aussi, c'est important. Amplitude d'horaire d'ouverture assez important quand même. Hein, en général, en gros, pour celles qu'on a visitées, en tout cas du lundi au vendredi, souvent fermées le midi. ouverte le samedi pour certaines d'entre elles et ouverte aussi le soir pour un certain nombre d'ateliers, avec des ateliers en début de soirée et parfois des ateliers en fin de soirée. Donc il y a aussi cette amplitude qui est très forte en termes d'ouverture. Des fichiers papier, hein, bien que les catalogues soient informatisés, je vous montrerai des images. Donc il y a une différence entre le réseau, d'une certaine façon, voire la théorie du réseau, sa gouvernance en tout cas, et ce qu'on peut voir et vivre dans les bibliothèques populaires particulières. Pour l'accès aux collections, nous, ce qu'on a plutôt observé, c'était une forme de médiation, un peu d'accès libre pour les enfants, mais quand même une forme de médiation pour les adultes ou pour les jeunes adultes. Hein, c'est-à-dire qu'on passe par la médiation du bibliothécaire. Et ça se fait très simplement, très facilement. C'est un rôle que le bibliothécaire prend facilement, sans qu'il soit à proprement parler prescripteur et porteur d'une forme de légitimité culturelle. Ce qui compte, c'est la demande des habitants, des vecinos et des usagers. Ça, c'est très clair hein, de ce côté-là. Les collections sont essentiellement constituées de dons, hein, donc de livres d'occasion, enfin d'occasion, voire parfois même de livres anciens, voire très anciens, hein, des livres qui n'auraient pas la place sur un grand nombre de sur les étagères d'un grand nombre de bibliothèques municipales en France, et du neuf, de plus en plus, donc avec ces crédits qui sont alloués par la Conabip ou cet argent que la bibliothèque parfois arrive à économiser. Elles sont plutôt encyclopédiques, hein, en tout cas de ce qui nous a été donné de voir et d'observer, mais vraiment développées au gré des opportunités, c'est-à-dire les dons. Donc ça peut être très hétérogène, et des demandes aussi parfois des usagers qui souhaitent des livres voilà, présents dans l'actualité, hein, que ce soit des romans ou des best-sellers ou autres. Donc ça vous fait des fonds qui sont à la fois entre une forme de découpage encyclopédique et en même temps parfois c'est comme un gruyère pour certaines collections, en tout cas donc on a des fonds qui sont constitués au gré des opportunités. Voilà. Les ateliers sont très nombreux dans les bibliothèques populaires. J'en donnerai un petit exemple. Et Sina parlera un peu plus de l'impact sur les quartiers. Des images avec du vert, puisqu'on va essayer de vous détendre un petit peu. Donc avec là, justement, à gauche, nous sommes dans un bidonville, quasi bidonville. Hein, on parle de Bichas en Argentine, et donc on y reviendra puisque c'est la bibliothèque Palabras del Alma. Et à droite, un environnement auquel on a souvent été confronté, hein, où là on est dans la grande périphérie de Buenos Aires, mais plutôt dans un milieu urbain de classe moyenne. L'entrée d'une bibliothèque à gauche, Arturo Jaureche, avec, vous voyez, bon, des accès qui sont parfois, j'allais dire, cryptés, pas cryptés, quoi, mais on n'est pas dans ce dont on commence à parler aujourd'hui en termes de façade seuil très accessible, bibliothèque troisième lieu. Là, on fait comme on peut, on trouve une salle au-dessus d'un centre culturel et social, on la loue avec un escalier qui n'est pas forcément facile. À droite, c'est une autre bibliothèque dont Sina parlera un peu plus longuement, qui est la Quiroga. Vous voyez, la Quiroga est fermée par une grille avec une sonnette pour des raisons de sécurité, notamment. Donc, on a quand même, hein, vous voyez, des modalités d'accès qui sont pas nécessairement évidentes, mais indispensables souvent pour les quartiers dans lesquels elles. Toujours des environnements intérieurs. Là, ce sont les armoires de livres fermées de la bibliothèque Jaureche, sachant qu'elle partage cet espace avec un cours de danse. Et donc, à certains moments, il faut fermer les armoires, les déplacer. Hein, vous voyez la barre, là, parce que la bibliothèque se transforme en cours de danse et les deux activités s'associent très bien, comme vous pouvez l'imaginer. Toujours l'intérieur d'une bibliothèque, Entre Todos, cette fois-ci, avec une partie des personnes qui ont créé la bibliothèque populaire et le bibliothécaire juste derrière, Emiliano, évidemment avec le bol de maté qui circule. Alors, la bibliothèque Palabras del Alma, qui est située donc dans le bidonville dont je parlais tout à l'heure, dans le quartier de Pilar, et qui a été construite par ses habitants. Là, il ne s'agit pas d'illustrer le travail illicite des moins de 15 ans, ce n'est pas du tout ça. C'était au contraire un moment très festif, où les habitants et les enfants, notamment les femmes surtout, étaient invités à construire la bibliothèque. Hein. Quand nous l'avons visitée, l'intérieur était donc béton, enduit, était fait par les femmes. Et cette bibliothèque est particulière. Donc à droite, on voit Hernán Neny, qui est le fondateur de cette bibliothèque et le bibliothécaire de référence, qui a été reçu par la présidente actuelle de l'Argentine, Cristina Kirchner, parce qu'il a refusé des fonds de soutien américains pour aider à développer cette bibliothèque, parce qu'ils étaient américains, americanos et gringos, parce que là, pour le coup, justement, ils refusaient publiquement de l'argent qui pouvait être associé à des fonds vautours. Les collections, ben voilà, quand je vous disais, hein, donc du neuf, voire du très neuf, hein, donc tout le cycle, évidemment, Twilight, mais aussi des collections beaucoup plus anciennes, beaucoup d'usuels, voilà, donc des secteurs jeunesse particulièrement développés, hein, parce que c'est quand même le gros des publics des bibliothèques municipales, le fichier dont je vous parlais tout à l'heure. Alors à droite, une petite affiche où on voit que les bibliothèques populaires sont très importantes, notamment pour les enfants et pour les plus pauvres. Voilà, et ça, c'est aussi des choses qu'on a retrouvées assez facilement. Et les ateliers dont je parlais très vite, là, un atelier d'horticulture, c'est amusant avec les sujets qui avaient lieu ce matin. Le sac que la petite fille soulève, parce qu'on lui demandait de le montrer pour faire la photo, c'est un sac de graines qui est offert par la municipalité aux habitants des bidonvilles et les habitants du quartier, là, avec des graines locales et indigènes. Parce qu'en ce moment, vous savez que la société argentine est particulièrement sojatisée par des grandes entreprises essentiellement nord-américaines et qu'elle a perdu aussi un peu pied avec ces formes de culture locale. Donc là, on reçoit un sac de graines et à la bibliothèque, on peut recevoir des cours d'horticulture, voire aider à développer un potager collectif. Et ça, c'est un cours du soir de primaire pour les adultes, hein, où on voit là aussi un engagement assez important. À toi, Sina.
Non, moi, c'est bon, je vais...
Non.
OK. Donc, bonjour. Et merci aux organisateurs d'avoir préparé cette journée d'études. Alors, dans cette communication, je vais comparer mon terrain de thèse qui se trouve à Orléans, à La Source, et la bibliothèque Horacio Quiroga qui se trouve à Moreno. Et je vais, à partir de ces comparaisons, montrer comment les bibliothèques sont des espaces où se font et s'exprime du politique, et qui suscitent de ce fait une attention particulière de la part des individus qui participent à l'organisation sociale et politique du territoire en question. Alors, il ne s'agit pas de comparer pied à pied les données que j'ai récoltées, car je n'ai pas eu le temps encore de toutes les traiter, mais l'éclairage de ce qu'on a vécu en Argentine m'a permis de saisir différemment mon propre terrain de thèse à La Source. Alors, des réalités simples.
Vas-y,
oui, d'accord. Les bibliothèques en France et en Argentine sont des lieux ouverts au public dans lesquels sont entreposés des livres afin de permettre aux usagers d'y avoir accès. Elles se trouvent sous des tutelles différentes. Comme cela a été signalé par Christophe, la médiathèque Maurice Genevoix est gérée par la municipalité d'Orléans, alors que celle de la Quiroga est gérée par une association. Donc, dans un premier temps, je vais présenter la manière dont j'ai été guidé et informé sur les terrains que j'ai pénétrés, parce qu'elles sont, à mon avis, révélatrices de la manière dont les gestionnaires et les bibliothécaires perçoivent leur rôle et leur champ de manœuvre au sein des structures et des hiérarchies. Alors, ce sont deux bibliothèques que l'on ne peut pas comparer, qu'on ne peut pas mettre sous le même plan, j'insiste, mais qui permettent de questionner ces enjeux sociaux et politiques que peut représenter la présence de chercheurs sur ces espaces. Et dans une seconde partie, je souhaite proposer des pistes de réflexion pour saisir les rôles différenciés qui sont investis dans les bibliothèques et qu'on présente souvent malgré une apparente neutralité, il existe des conflits dans l'organisation de ce qui peut être dit ou non sur ces espaces. Et donc, que ce sont des lieux qui sont chargés politiquement, tant du point de vue des pouvoirs locaux que du point de vue des usagers. Je vais être assez rapide. Donc, quelques mots sur la médiathèque Maurice Genevoix. Donc, je vais faire des comparaisons qui vont se succéder. Alors, la médiathèque Maurice Genevoix se trouve dans le quartier de la Source. Alors, bon, on voit. Ok. Donc, le quartier de la Source est un quartier. Donc, c'est ce quartier, enfin, Orléans. C'est l'ensemble de ce qui est surligné en jaune. Et le quartier de la Source, donc, est un quartier excentré qui a été conçu comme une ville nouvelle. Donc, ça a été, comme on peut le voir, c'est assez visible quand on regarde la carte, c'est un territoire qui a été acheté à deux communes limitrophes, Olivet et Saint-Cyr, et qui correspond à ce que... Enfin, est comparable à, sur de nombreux points aux villes nouvelles qui ont été créées dans les années 60, enfin 50, 60, et aux gros ensembles. Bon, ça, c'est un autre débat. Donc, c'est une quasi-ville de 20 000 habitants qui comprend 20% de la population. La médiathèque a été conçue en 2009. Il y avait une bibliothèque auparavant sur ce territoire. Et elle appartient à un réseau de 6 médiathèques, une bibliothèque et 5 bibliothèques spécialisées. Et en son sein, travaillent 11 bibliothécaires et documentalistes et une directrice. Donc je passe assez rapidement sur la capacité d'accueil de la bibliothèque, c'est 300 personnes, une superficie de 1 700 m². Et des espaces dévolus, des espaces de travail, des espaces prévus pour accueillir des activités, une salle de compte pour les enfants. Alors, la bibliothèque précédente était placée ici, entre l'Université d'Orléans, qui se trouve à cet endroit, et le lycée Voltaire, qui se trouve à cet endroit. Là, cette bibliothèque a été détruite dans le cadre du GPV, du grand projet de ville, que de nombreux territoires urbains, de nombreux quartiers populaires ont connu. Et elle a été construite ici, c'est-à-dire entre les trois zones d'habitation, qui sont l'aire d'habitat HLM, l'aire d'habitat locatif privé et l'aire d'habitat pavillonnaire. Ça a son importance sur la fréquentation. Donc je passe rapidement pour limiter... Donc voilà la médiathèque, les différents espaces. Elle fait face à une place qui a été conçue. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en résonance avec les communications précédentes. La place Minouflet, pour accueillir, c'est des espaces verts qui ont été conçus pour accueillir des habitants, pour avoir une activité oisive. Et ça fait partie de la réglementation des espaces publics prévus dans le GPV de la Source, dans le grand projet de ville. Des caméras de surveillance sont installées sur cette place et en face de la médiathèque. Alors, ma première rencontre avec l'équipe de la médiathèque Maurice Genevoix s'est faite par l'intermédiaire d'une bibliothécaire. Je n'ai pas le temps de présenter mon terrain de recherche, mais... Orléans est la ville dans laquelle j'ai grandi. Donc j'avais déjà quelques connaissances sur diverses personnes qui habitent ce quartier. Et donc je connaissais déjà cette bibliothécaire par l'intermédiaire de différentes personnes. Et j'avais eu des discussions informelles avec elle à propos de la bibliothèque Maurice Genevoix. Au bout d'un moment, cette bibliothèque est apparue comme un objet d'étude intéressant à intégrer dans ma thèse. Et le caractère informel, donc j'ai sollicité cette bibliothécaire pour qu'elle participe à un entretien. Et à partir du moment où je l'ai sollicité pour faire un entretien, le caractère informel qui avait prévalu jusqu'à présent a été impossible d'être poursuivi. Elle m'a demandé de passer par sa hiérarchie, malgré mon insistance en expliquant l'aspect anonyme des entretiens. C'est une médiathèque que j'ai fréquentée pour diverses raisons, pour travailler, mais aussi comme un espace de loisirs. Et j'ai développé des relations avec des bibliothécaires au sein de cette médiathèque, notamment avec un avec qui j'avais des échanges assez réguliers sur des BD, parce que je suis bédéphile. J'ai réitéré ma demande auprès de lui. On avait des discussions informelles et il m'a fait la même réponse. Il était nécessaire d'avoir l'autorisation de sa hiérarchie. Alors, je n'ai pas su s'il s'agissait d'une règle clairement énoncée lors de leur prise de fonction ou s'il s'agissait d'une une prudence qu'ils s'imposaient eux-mêmes. Je reviens sur cet aspect par la suite. Je finis par contacter la directrice qui me demande d'envoyer une demande écrite afin qu'elle le transmette à la hiérarchie, c'est-à-dire aux responsables des réseaux. Donc elle finit par accepter, après avoir pris l'assurance qu'aucune information ne serait transmise à la presse. Et elle commence l'entretien en me conseillant vivement de rencontrer le premier maire adjoint et député de la circonscription qui a participé à l'organisation du GPV et la mise en place de l'espace public, notamment l'espace Minouflé. Donc on voit qu'un jeune chercheur qui entre dans une médiathèque, en tant que chercheur, pas en tant qu'usager, se trouve rapidement dirigé par une procédure administrative, par un circuit balisé de rencontres, d'entretiens et d'objets à analyser. Ce circuit introduit des médiateurs qui, eux, ne travaillent pas directement sur le terrain. Il s'agit donc de comprendre ce qui est en jeu lorsqu'on essaie de maîtriser et d'orienter ce qui va être dit sur la bibliothèque. Alors, maintenant, je passe à la bibliothèque Horacio Quiroga. Alors, les cartes, je suis désolé, elles ne sont pas excellentes, mais bon, c'est pour situer. Alors, Moreno fait partie est l'un des districts des 24 districts du Grand Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires en noir, c'est la capitale fédérale, et Moreno, c'est la partie orange, qui se trouve à 37 km, la frontière est se trouve à 37 km de la capitale. Alors, l'arrivée de l'autoroute, l'accès est, a considérablement attiré une nouvelle population et d'un niveau social plus élevé, qui a participé à l'organisation territoriale et qui a notamment la création d'habitations de zones résidentielles privées. Et c'est quelque chose qu'on retrouve sur l'ensemble du Grand Buenos Aires, c'est la diversité sociale, économique et urbanistique du territoire. Alors, bon, il y a... Bon, je passe... Donc la bibliothèque Horacio Quiroga, elle est gérée par un bureau de 4 membres, la commission directive, un président, un vice-président, un secrétaire, une trésorière, un conseil d'administration, commission de vocales, qui est composé de 6 membres, dont 2 experts comptables qui sont beaucoup moins actifs. Alors tous les membres actifs de cette association sont membres d'une agrupación, c'est-à-dire un collectif militant, qui est aussi un syndicat, qui est aussi une coopérative agricole, qui est également un parti politique local. La bibliothèque est gérée par 2 salariés rémunérés, donc l'un par la CONABIP, l'autre par un service administratif des bibliothèques du Grand Buenos Aires. Pardon. Et divers ateliers sont proposés au sein de la bibliothèque. Le lundi, soutien scolaire, le mercredi, atelier guitare, le jeudi, atelier de théâtre. C'est aussi un lieu sur lequel sont distribués des paniers agricoles, enfin de produits par des agriculteurs locaux. Donc, je n'ai pas la façade, mais elle a été montrée précédemment par Christophe. Alors, comme Christophe l'a déjà dit, l'enquête s'est organisée en 2 temps. Le premier temps, avec Christophe, on a pu observer différentes bibliothèques populaires. Et dans un second temps, j'ai toujours habité à Moreno, chez le président de l'association. Et j'ai réalisé une ethnographie du quartier à travers la bibliothèque. C'est par la bibliothèque que je suis rentré et que j'ai observé ce qui se passait autour du quartier. On pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Donc c'est un mode de production basé sur l'immersion sur le terrain. Et ma vie quotidienne s'est déroulée exclusivement dans le voisinage de la bibliothèque. Alors, au cours des premières observations qu'on a faites avec Christophe, on a eu le sentiment à plusieurs reprises que notre présence suscitait une attente importante. Et on comprenait que notre présence recouvrait des enjeux politiques, sans pouvoir en tenir les aboutissants, sans pouvoir en tenir tous les acteurs, quels étaient les enjeux. Mais on saisissait qu'il y avait un enjeu. Et au cours de mon enquête sur la bibliothèque Quiroga, le président m'a demandé au bout de 2 semaines si j'acceptais de faire un entretien dans le journal local. Je me retrouvais donc dans la situation exactement inverse avec celle que j'ai rencontrée à la médiathèque de la Source. Et le président m'énonçait clairement les enjeux en me précisant que cette interview avec un jeune chercheur en sciences sociales français pourrait aider la bibliothèque à obtenir plus de soutien de la part de la municipalité. Donc, on voit que dans les 2 cas, à Orléans et à Moreno, le travail académique devient un ingrédient des rapports de force politiques et institutionnels des acteurs locaux. Dans un cas, le travail académique inquiète. La directrice s'assure, avant d'accepter l'entretien, que les données n'apparaîtront pas dans la presse. Dans l'autre cas, cette visibilité est souhaitée et les enjeux politiques et sociaux qui entourent la bibliothèque sont clairement énoncés. Encore une fois, il ne s'agit pas de comparer avec une même grille d'analyse ces deux situations. L'une est une association reliée à un réseau militant, l'autre est un service public s'intégrant dans un grand projet de ville. Waouh, ok. Toutefois, cela apporte un éclairage sur la diversité des modes de présence d'une bibliothèque au sein d'un quartier. Là, on pourrait avoir tendance à considérer les bibliothèques comme des structures politiquement neutres qui ne dépassent pas le simple cadre d'un service aux habitants. On voit que les enjeux politiques affleurent très rapidement. De plus, ces 2 enquêtes... mis en parallèle, m'ont permis de me poser la question sur le champ de compétences que les employés estiment avoir au sein de leur structure. Alors, on est d'un côté dans une attitude de présence, de prudence, et dans l'autre, au contraire, dans une attitude de médiatisation de la parole. On va passer un peu plus rapidement. Donc, dans le cas orléanais, la médiathèque s'est construite dans le cadre du GPV. Auparavant, la bibliothèque s'appelait la bibliothèque de la Source. Son nom la liait directement à son territoire, en tant que territoire urbain périphérique, en partie résidentiel et en partie populaire, avec entre autres des enjeux liés à la représentation des communautés immigrées dans l'espace public. Désormais baptisée médiathèque Maurice Genevoix, son nom est lié à un auteur reconnu de la région Centre qui a écrit des livres régionalistes sur la Loire et la Sologne. D'autre part, le discours d'escorte de la médiathèque est tourné vers le champ lexical de la modernité, des nouvelles technologies. Le A de médiathèque est un arrobas dans toutes les plaquettes de documentation, y compris sur la façade de la médiathèque, et c'est repris comme tel dans le journal local. Bon, je passe là-dessus. Pour autant, l'attention portée à l'ancrage de la médiathèque n'est pas reléguée au second plan. Au contraire, il y a une politique d'accueil, il y a une politique avec le service de prévention-médiation que la médiathèque a tissé, il y a des relations avec des associations locales et le réseau des écoles maternelles et primaires à travers la démarche coup de clé mises en place nationalement. Donc la médiathèque, il ne s'agit pas de dire que la médiathèque est un équipement insulaire. Elle est ancrée dans les réalités sociales, politiques et culturelles locales. Le directeur, d'ailleurs, employait le terme de médiateur pour parler des... Enfin, le responsable du réseau parlait des médiateurs pour parler des employés du réseau. Mais la médiation dont il parle est synonyme de transmission. Il place ses agents, les agents de sa médiathèque, comme des passeurs chargés de faciliter l'accès à la culture de tous ses usagers. La médiathèque apparaît ainsi comme un espace neutre d'intention politique. Comme si le changement social, si changement social il y a, il sera un effet de cette transmission. C'est d'ailleurs quelque chose qui est évoqué par la directrice de la médiathèque au cours de notre entretien. Elle me dira « La médiathèque est un lieu ouvert à tous. C'est l'un des rares lieux publics où l'on peut entrer sans avoir à se justifier de quoi que ce soit. » Et dans le même temps, elle me faisait part de la nécessaire prise en compte des réalités sociales, parfois conflictuelles, du quartier environnant, qui, lorsqu'ils s'invitent dans la médiathèque, doivent trouver une réponse, un règlement intérieur qui permet à la médiathèque de rester une médiathèque, tout en restant ouvert à tous. Pour reprendre Denis Merclène, qu'on a beaucoup évoqué, d'un côté, le pouvoir public missionne les bibliothécaires d'agir sur des espaces d'une grande conflictualité. De l'autre, les bibliothécaires demandent aux habitants de préserver l'espace de la bibliothèque, c'est-à-dire de ne pas laisser pénétrer les conflits de la vie du quartier dans l'enceinte de l'institution. Autrement dit, d'un côté, on a le discours d'élus qui présente cette médiathèque, comme bien d'autres dans des territoires similaires, comme des outils de développement local, destinés à l'amélioration de la vie quotidienne des classes populaires. D'un autre côté, l'architecture, l'organigramme, les crédits alloués à l'action culturelle ne sont pas faits pour répondre à la diversité des situations qu'implique un équipement qui se veut à la fois ouvert et à la fois élément de changement social. Autrement dit, on demande aux bibliothèques d'être plus que des bibliothèques, tout en restant des bibliothèques. À Moreno, on retrouve les mêmes ambivalences. D'un équipement destiné à la communauté, la comunidad, les vecinos déjà évoqués par Christophe. Mais la façon de répondre à cette complexité est presque inverse. Les enjeux politiques sont clairement évoqués. Le président me dira clairement que l'un des objectifs en prenant la présidence de cette association, c'est de former des sortes de notables de quartier, des cadres barrial, des personnalités locales qui feraient figure de référent pour tout un tas de questions liées ou pas au monde de la lecture. D'ailleurs, José, l'un des bibliothécaires, me dira que son rôle dans le quartier est clairement d'être une personnalité référente. Il me donnera l'exemple qu'il est sollicité dans le bus pour des questions administratives, ou un autre exemple qui a été notre actualité à notre arrivée, les inondations, des grandes inondations ont frappé Buenos Aires dues au réchauffement climatique, et la bibliothèque a été investie comme un lieu support de solidarité entre vecinos, pour a servi de local de stockage pour la répartition de vêtements, des produits de première nécessité et également de renseignement des besoins. Donc, on voit bien dans les deux cas orléanais et argentins que la bibliothèque ne peut être réduite à un simple équipement de consultation ou de pré-documentaire. Elle ne peut être considérée comme un lieu de neutralité politique ou sociale. Dans un cas, cette charge politique, parfois conflictuelle, est un élément à contenir, tandis que dans l'autre, cette charge politique est affirmée, comme une partie intégrante du fonctionnement de la structure. Et il me semble que c'est tout l'enjeu de cette communication, que l'on gagne en compréhension des interactions lorsqu'on considère la bibliothèque autrement que comme un simple espace de service, donc un espace dont on neutralise la dimension politique. Le but ici n'est pas de prendre Horacio Quiroga comme un modèle d'amélioration du fonctionnement des bibliothèques françaises installées dans des quartiers populaires. En revanche, ce décentrement outre-Atlantique peut nous inviter à nous questionner sur le pourquoi de notre discrétion à l'égard du rôle éminemment politique que peuvent jouer les bibliothèques au sein des quartiers populaires.
Pour ces deux communications vraiment passionnantes et brillantes, alors il y a deux cas de figure. Soit je laisse la parole pour des questions et on coupe la pause. soit on zappe pas la pause et il n'y a pas de question.
Ça, c'est politique aussi.
C'est politique, hein. Ah, là-bas, une main se lève pour protester, pour poser une question, je ne sais pas.
Juste une petite question. Donc, c'est Agathe, je suis Agathe Béchelaine de la BPI. J'avais une question sur la formation des bibliothécaires dans ces bibliothèques populaires. Je voulais savoir sur quelle formation ils s'appuyaient pour intervenir dans ces bibliothèques. Merci.
C'est très hétérogène. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a parfois des bénévoles qui n'ont pas de formation initiale et qui se confrontent au métier, à sa difficulté, à sa richesse, voilà, en partant de zéro. Petit à petit, il y a ce travail de la Conabib quand même qui vise à essayer de les former un petit peu, voire même parfois à dégager un demi-salaire pour un bibliothécaire professionnel. Donc ce sont des bénévoles qui passent par l'école des bibliothécaires de Buenos Aires pour ensuite venir travailler sur place. Il y a des modèles aussi où la municipalité parfois dégage aussi très rarement des temps pleins, mais plus souvent un temps partiel, un seul temps partiel, hein, le reste étant des bénévoles. Ce qui est particulier, on n'a pas eu le temps de le dire parce que ça devenait un peu complexe, c'est que dans la province de Buenos Aires, et à Buenos Aires capitale en particulier, c'est une université qui s'appelle General Sarmiento, précisément, qui est situé plutôt à la périphérie de Buenos Aires, qui a pour mission d'aider et d'entretenir le réseau de bibliothèques populaires. Vous voyez, donc, c'est une université à Buenos Aires qui s'occupe du réseau de bibliothèques populaires et qui, du coup, leur apporte beaucoup de formation et d'aide à constituer les collections, développer des services, et ainsi de suite. Donc, c'est très hétérogène, Agathe, en fait.
Donc, juste pour compléter ce qu'a dit Christophe tout à l'heure, en effet, nous avons publié un ouvrage sous la direction d'Agnès Sandras sur les bibliothèques populaires en France et entre autres en Argentine. Et il y a une contribution importante sur la constitution et le mode de fonctionnement de ces bibliothèques populaires. Voilà.
Merci. Alors, Renaud Amel, je suis stagiaire à la BPI. J'ai une question justement par rapport à ces bibliothèques de Buenos Aires. Populaire, est-ce que les Argentins conçoivent ces bibliothèques, puisque vous dites que l'implication politique est très présente et assumée, est-ce qu'ils conçoivent ces bibliothèques comme des établissements en fait qui ne sont pas permanents, qui ne sont pas vraiment durables, qui seraient sensibles aux fluctuations politiques locales? Est-ce que...
Alors, la Quirogas, c'est un exemple. Il y a une diversité de gestion des bibliothèques qui est très vaste. Parfois, c'est militant, parfois, ça ne l'est pas. Parfois, c'est dans une association de développement. Je ne sais pas trop comment le traduire, mais...
Développement social.
Ouais, de développement social du quartier. Et alors, c'est effectivement une très bonne question. C'est aussi dû aux crises, comme l'a déjà évoqué Christophe, et à une réponse des habitants des classes populaires et des classes moyennes à cette crise de 2001 en particulier. Les gens nous racontaient facilement qu'ils ont eu faim en 2001 et qu'ils se sont organisés. Donc ces espaces-là répondaient à la fois à pallier à des difficultés immédiate. Alors après, c'est pas conçu la pérennité du lieu. Je dirais que c'est quelque chose qui est souhaité, mais j'ai pas eu l'impression que c'est quelque chose, une question qui s'est posée dans ces termes-là. Si on redit ce que nous ont dit nos interviewés, nos enquêtés, c'est pas quelque chose qui a apparu aussi clairement, mais c'est quelque chose à quel ils tiennent.
En fait, on pourrait presque dire par certains côtés que les bibliothèques particulières sont mortelles, parce qu'effectivement, quand vous ne pouvez plus payer le loyer de la bibliothèque populaire, ça s'arrête. Et la municipalité, très rarement, va venir et aider pour sortir de l'ornière. Donc ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et en même temps, en revanche, dans l'ADN argentin politique, la bibliothèque populaire, elle a une permanence et une force d'existence qui est incontestée, incontestable. Au ministère de la culture, par exemple, les bibliothèques populaires, ça fait partie pour eux de la richesse du patrimoine argentin et du territoire. C'est assez étonnant, hein. C'est vraiment. Mais en même temps, voilà, ils doivent d'abord commencer par se débrouiller par eux-mêmes. Et ça, c'est typique de l'organisation politique argentine, avant que l'État et que les institutions se tournent vers eux pour éventuellement apporter quelque chose.
Bonjour, Romuald Goudzon du réseau des médiathèques d'Orléans. Donc, ce qui explique pourquoi j'ai un peu de peine pour l'instant à prendre de la distance avec ce que vous avez dit, très intéressant et touffu. Donc, je pense qu'on prendra connaissance de votre travail avec grand intérêt. Juste pour apporter deux petites informations. Évidemment, on ne nous interdit pas à la prise de poste de parler aux chercheurs. Simplement, enfin, vous l'avez dit d'une autre manière, vous vous êtes confronté à une administration en France et pas du tout à une association. Je ne sais pas du coup si vous avez eu accès à un bibliothécaire officiellement. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec un de mes collègues à ce sujet? Enfin, en tout cas,
Alors, ce n'est pas une question que j'ai posée directement, mais en fait, moi, c'est simplement quelque chose qui m'a interpellé. C'est pas une critique. C'est quelque chose qui m'a interpellé par rapport au terrain argentin. La prégnance du politique et la visibilité qui lui est donnée, le rôle politique et social qui est affirmé dans la bibliothèque, est quelque chose qui n'est pas affirmé de cette manière. Et je pense pas. On peut retrouver ces questions. En fait, c'est des enjeux très académiques derrière. C'est qu'est-ce que c'est un espace public, un espace public? À partir de quand on peut dire que c'est un espace ouvert à tous? Qui a le droit de parole? Qui n'a pas le droit de parole? Enfin, c'est des enjeux académiques. En fait, c'est des questions qui soulèvent des questions académiques sur l'espace public. En soi, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, à mon avis, dans d'autres administrations françaises. C'est pas quelque chose. Moi, ça m'a. En fait, si j'ai souligné à ce point le terrain argentin qui m'a éclairé, c'est que pour moi, c'était normal qu'on me dise il faut passer par la directrice, puis que j'envoie un mail à la direction. C'est quelque chose qui me paraissait logique. C'est à travers le terrain argentin que quelque chose est apparu et que ça a été le côté. Enfin, les zones d'ombre, enfin, et de deux côtés, c'est d'ailleurs tout l'intérêt d'un échange et de comparer ces objets.
Mais pour être tout à fait honnête, en ce qui concerne justement le travail de terrain en Argentine, c'est qu'on n'arrive pas, Sina et moi, dans les bibliothèques populaires comme ça, en les ayant choisies au hasard et en se présentant comme ça de but en blanc. Bonjour, nous sommes des chercheurs français, ce que vous faites nous intéresse et les portes nous sont grandes ouvertes. C'est pas ça, c'est que le travail de terrain a été médié par l'université Sarmiento, qui a une grande complicité avec les bibliothèques populaires et les bibliothécaires, et qui ont préparé notre venue sur le terrain. Donc il y a quand même cet ancrage institutionnel. Et en plus, on venait dans le cadre d'un échange franco-argentin, qui est en plus dirigé par un chercheur argentin. Enfin, il est né en Uruguay, mais il est argentin à la base, Denis Merklen. Donc il y avait ça quand même. Cela dit, quand on lit le livre de Denis Merklen, quand on lit son travail justement sur la façon aussi dont il a pu et il a pu travailler de façon très intéressante sur Pleine Commune, on voit que lui aussi a été confronté à un certain nombre de choses auxquelles Sina a été confronté sur le terrain à Orléans.
Et j'insiste, hein, c'est vraiment pas une critique, c'est poser différemment cet objet pour le questionner.
Et juste une dernière petite remarque, en fait, je n'ai pas de réponse, mais ça mériterait d'être creusé, sur le nom même de cette bibliothèque de la source. Oui. En fait, je crois que notre bibliothèque centrale souffre d'une chose un peu particulière, c'est qu'elle n'a pas de nom. En fait, en 1994, quand elle a ouvert ses portes, je crois que le simple fait de s'appeler médiathèque était déjà suffisamment innovant, et on n'a pas jugé bon de lui trouver un nom. Et aujourd'hui, ça pose des problèmes presque hebdomadaires, enfin récurrents, on se demande comment on s'appelle. Et peut-être que ça explique ce pourquoi il a fallu donner un nom à cette médiathèque de la Source. Ça ne suffisait pas de la nommer par sa localisation. D'accord. Et d'honorer Maurice Genevoix. Bon, ça, c'est très politique, évidemment, mais il y aura une exposition dans quelques semaines qui va ouvrir ses portes, si ce n'est pas déjà fait cette toute dernière semaine. Donc, je n'ai pas de réponse.
Il y a une symbolique du nom qui est très intéressante quand on compare la France, enfin les bibliothèques populaires argentines avec les bibliothèques françaises dans les quartiers populaires. En Argentine, c'est très souvent des noms d'activistes politiques, militants, hein, des grands partis, Arturo Jaureche, d'autres encore. Palabras del alma, c'est les mots de l'âme. Entre todos, c'est entre tous. Vous voyez, on est vraiment, on n'est pas dans le même registre. Ils ne sont pas directement là dans le registre culturel comme nous, on peut l'être. Et ça s'explique très bien aussi, hein, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur les mêmes imaginaires.
Bien, bah écoutez, je vous remercie vraiment tous les deux. Et sans pause, et comme ça, sans transition aussi, une petite transition rapide. Donc je vais passer la parole à Manuel Dupuis-Salle qui va, lui, intervenir sur des problématiques évidemment différentes, puisqu'il s'agit des traces que les visiteurs que nous sommes, potentiellement, laissent sur les réseaux sociaux quand ils visitent un certain nombre d'expositions, et en particulier, enfin, il va nous expliquer qui a travaillé autour des éditions de Duchamp et de Jeff Koons.